Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 4 février, nouvelle émission. Encore une fois, vous êtes sur votre magazine préféré et vous êtes bien sur le 106.6. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur le www.campuslille.com. Nous sommes ensemble jusque 12h30. Aujourd'hui, nouvelle émission, puisque la Miche nous a lâchement quittés pour faire un peu de kilomètres sur la Mayenne, puisqu'il prépare la transpéruvienne avec nous. Luc nous a quittés aussi, puisqu'il est parti dans les Caraïbes tester sans doute une nouvelle triomphe secrète. On espère qu'il n'a pas oublié ses tongs. Bonjour Laurent, bonjour Christophe, bonjour Yanis, bonjour Philippe, bonjour Benoît. Aujourd'hui, plateau riche, varié et très éclectique. On va commencer tout simplement, comme d'habitude, avec Christophe Quillemant, notre correspondant Motomag, qui a plein de choses à nous faire partager.
Voilà, Motomag numéro 344, février 2018. Si vous êtes abonné, vous avez reçu en même temps le moto hors série, donc les essais 2018. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc de Motomag de février, les essais, les hommes et les femmes qui font la moto, l'équipement. Alors ça tombe bien, Yanis, parce que je sais que tu avais écrit quelque chose sur les hivernales. Et donc, on va parler grand froid et les moyens de s'en protéger.
On va essayer. Voilà, alors, ça commence là, le froid revient.
Voilà, léger. Un petit peu de neige aujourd'hui.
D'ailleurs, t'étais pas comme une vache.
J'étais non, pas au mille vaches
parce que cette année, il y avait de la neige.
Mais je vais aux éléphants dans 15 jours.
Ah bon, alors, il y aura de la neige aussi.
Oui, il y a des chances.
Voilà, on va parler évidemment du dossier de l'actu avec Benoît, donc de la FFMC, les fameux 80 km/h. Je crois qu'on en parlait juste avant l'émission.
Tout à fait.
Il y a de quoi dire et ça a été un week-end animé. Ça l'est encore, toujours d'ailleurs. Et puis un voyage, il y a toujours une rubrique tourisme, et puis donc écrite par celui qui l'a fait en sidecar, la découverte de l'Islande. Donc je vous en parle tout à l'heure.
Ok. Maintenant, on veut peut-être un petit coup de musique, Laurent. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah comme d'hab, hein, on va pas changer les habitudes.
Bah non.
Hein. Alors c'est parti.
Alors, on y va. Après un bon morceau de musique, Christophe, alors qu'est-ce que tu nous racontes sur ton sommaire Motomag et ce que tu as pu lire d'intéressant pour tous nos auditeurs ?
Alors, Motomagazine, bah, c'est surtout des présentations de modèles, hein, donc des essais. J'en ai relevé plus d'une dizaine ce mois-ci. Donc la marque Morini qui renaît, les belles italiennes, hein, donc un modèle Scrambler et un modèle Milano. La marque Fantic également, donc qui est présentée, des modèles, un Scrambler et un flat track. Ouais. On va parler d'Indian tout à l'heure. Et alors, je sais pas, vous avez entendu cette semaine, le fondateur d'IKEA est décédé.
Ouais, tout à fait.
Et c'est suédois. Bah, on en parle pas mal dans Motomag. Alors, on en parlera tout à l'heure, les 80 km/h.
Avec plaisir.
Ça nous vient du Nord.
Tout à fait. Hein,
puisque c'est deux Suédois qui avaient fait dans les années 80, je crois, et 2000, une étude sur le sujet. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, si je vous parle de deux autres Suédois, c'est parce qu'ils sont partis donc d'une Indian Super Scout qu'ils ont décliné donc en façon board track des années 20, mais avec la technologie moderne. Donc ça vous donne une moto aujourd'hui qu'on qualifierait d'improbable, mais qui a bien existé, mais avec des performances. Le moteur de la Scout est turbo compressé avec 150 à 200 chevaux à la sortie. Je vous laisse augurer de la fusée que ça peut être. Dans les autres sujets qui sont présentés, donc les trails, donc j'en avais déjà eu l'occasion d'en parler, l'Explorer qui maintenant donc est qualifié la Tiger, un vrai couteau suisse, hein, puisque en fait vous avez pas moins de 6 modèles différents, donc à vous de bien choisir. On parlera tout à l'heure électronique embarquée, effectivement, à vous de bien choisir la moto qui vous va. Et puis j'en avais parlé la semaine dernière, évidemment, ça c'est l'événement du Salon de Milan, la sortie de la nouvelle Gold. Alors maintenant, on l'avait vue en photo, on en avait discuté, effectivement, elle s'est européanisée. Hein, fini le vaisseau amiral, on est plus proche d'une pan-européenne, mais effectivement avec tous les attributs de la Gold, son fameux moteur, et puis innovation, donc la boîte DCT.
Qui donc, en série ou en option ?
Alors elle est en option. Elle est en option et avec l'airbag automatiquement. Hein, donc un essai qui... Alors je veux absolument vous faire lecture. C'est pas très radiophonique.
C'est pas
mais
grave.
Mais c'est quand même un sacré... Vous avez un éclaté de la moto pour vous montrer la géométrie du train avant qui a été complètement revu. Donc on peut observer que le fameux train avant est à double triangulation. La colonne de direction est séparée du cadre et s'articule autour de deux triangles dont l'inférieur assure la suspension. L'amortisseur est monté entre lui et le cadre. Vous avez suivi ?
Oui, ça me rappelle quelque part les machines de compétition de chez Fior à l'époque qui roulaient avec des moteurs, Honda d'ailleurs, usine, si je ne m'abuse. Et ils avaient acheté le brevet.
Voilà. Alors, Honda annonce 40% d'efforts en moins au guidon. Et effectivement, ce qui frappe la conduite, c'est le centre de gravité qui s'est encore abaissé, hein, ouais, puisque la moto est effectivement plus basse. Et donc, à découvrir. Alors, bon, on est évidemment là dans une moto à 35 000 euros, avec, j'ai dit, l'option DCT et airbag. On verra si, sur les routes, elle rencontre son succès.
Et si je peux me permettre, elle a, pour l'instant... très mauvaise image auprès des aficionados des Goldwing qui reconnaissent pas du tout leur Goldwing sur lequel ils roulaient et qui la trouvent en plus très moche. Nous, on en a quelques-uns, ils ont dit quand on monte dessus, qu'on voit ce trou béant à l'avant entre le guidon et le réservoir, ça fait vraiment une impression pas finie, pas beau. Et pour une bécane de ce prix-là, des fois, on peut se poser des questions, quoi. Est-ce que le choix est judicieux? Alors, une grande marque comme Honda, on a un peu de mal à prendre conscience qu'ils aient pu voir l'avis de leurs utilisateurs, mais ça fait voilà.
Alors, le rédacteur effectivement dit que Honda assume complètement. C'est une stratégie, et donc elle est passée sous toutes les coutures, y compris sur le côté passager. Plutôt passagère, on va dire, mais c'est le fauteuil, enfin c'est flagrant au niveau des photos. On est parti sur un confort plus à l'allemande. Donc on verra s'il rencontre son public.
Oui, moi, j'ai l'impression que cette nouvelle Goldwing, c'est un croisement entre une Panhero et une K1600 GT.
Un petit peu de tous les côtés.
Jamais, d'ailleurs, on le dit dans le.
Bien sûr, j'ai la même.
Alors j'ai jamais essayé de Goldwing. Je connais personne qui en ait, si à part Dédé, un autre complice Dédé. Mais je me demande si les aficionados.
On est quelques-uns à la Fédé à rouler en Goldwing et même notamment des sociétés de moto-taxi, et c'est même d'eux où ça vient, parce que les copains étaient au salon de Bruxelles et ils ont rencontré des gars de sociétés de moto-taxi qui venaient la voir, parce que Bruxelles, je pense que c'était une des premières fois où on pouvait la voir en vrai, et ils ont tous dit mais c'est moche, quoi. C'est con. Alors, pour une nouvelle machine aussi belle d'habitude.
J'ai souvent dit, mais je le redis, si vous voulez venir nous raconter votre essai, j'invite un propriétaire de Goldwing à aller essayer donc la nouvelle et à venir nous dire effectivement son appréciation et ce qu'il en dit. Alors, je continue sur les autres présentations de modèles. Donc, essai néo-rétro, la Z900, la mythique Z900 qui ressort donc avec un modèle Z900 RS. Donc, on fait référence aussi à l'époque à la Zephyr qui avait eu donc Kawasaki, qui a toujours su placer des modèles qui ont marqué l'histoire de la moto par l'évolution technologique et technique qu'ils ont apporté. Un essai de moto électrique. L'Energica SS9, je fais pas de commentaires parce que je vais avoir des remarques.
Mais pas du tout, non, mais au moins une chose dans ta constance, c'est que tu es toujours bien branché.
Absolument. Alors, c'est sûr que c'est pas avec ce modèle-là que vous ferez Bad Boy, mais avec plutôt la Triumph Bonneville Bobber Black. Donc, Black, pour le coup, là, elle est toute noire, effectivement. Et donc, vous verrez le look particulièrement soigné de cette moto. Sans oublier évidemment tout ce qui fait les atouts de la Bonneville et de son caractère moteur que vous pourrez apprécier. Modèle suivant, l'Harley Davidson, donc la plus puissante, la plus cossue de la gamme. On est donc là sur le modèle CVO. De la gamme, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, 117 inch.
Donc, 1923
centimètres cubes. Donc, on est sur un modèle de puissance, évidemment, accrue. Toute option, mais... plus encore, si vous
affinité.
Le souhaitez.
Mais affinité bancaire.
Tu l'as fait, effectivement. Parce que là, il vous faudra quand même signer un chèque de 40 000 euros. Mais Daniel, tu me disais qu'il y avait encore 16 000 euros d'options. Ah, si on le souhaitait.
Si tu n'es pas trop gourmand.
Voilà. Et puis, pour terminer, donc, un comparatif de trail donc de puissance de cylindrée modeste. Qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu. C'est vrai que 300 cm3, il y a 15 ans, je pense qu'on
n'aura
pas eu beaucoup de succès. aujourd'hui, ces modèles, donc, c'est l'effet A2 qui passe par là. Donc, trois trails, le BMW, le Honda, donc le 250 Rally et la Kawasaki Versys 300 qui vous sont présentés sur les routes du Vercors et qui vous donneront un d'ailleurs très belles images, et puis surtout une appréciation des modèles qui sont présentés. Donc voilà, j'en passe, il y en a encore quelques-uns. Je vous laisse découvrir donc dans le Motomag de février les modèles à l'essai, effectivement.
Rebonjour, vous êtes toujours sur l'émission Kikinkou avec nos invités de choc et de charme qui sont absolument pas stressés, voire détendus, surtout avec la visite de notre ami grec spécialiste de l'électronique embarquée, qui tout à l'heure nous fera une superbe intervention. Christophe, alors, la FFMC, les news.
Alors, effectivement, l'actu du moment, c'est cette limitation, cette répression et ces élucubrations. Donc, c'est le titre de Motomagazine sur le 80 km/h qui est programmé donc à partir du 1er juillet. Donc Benoît de la FFMC 59.
Bonjour à tous.
Bonjour, tu es venu nous raconter, enfin nous dire la mobilisation, rappelons-le, c'est la enfin c'est pas la première fois, mais c'est quand même une fois un peu exceptionnelle où l'association 40 millions d'automobilistes s'associe à la FFMC
un peu partout en France, et ils ont même de par ce fait créé des délégations régionales qui n'existaient pas auparavant. Ils se sont rendus compte aussi que parmi les automobilistes, il y avait énormément de mécontents. Nous-mêmes, on reçoit des mails d'automobilistes qui nous rejoignent, donc on sent vraiment qu'il y a une pression. Quand on sait que 8 Français sur 10 sont opposés à la mesure, ça fait quand même pas mal. Il y a des mouvements Facebook qui se créent un petit peu partout, hein, Colère 59, 62 et tous les départements de France, qui sont aussi des mouvements qui, dans leur récrimination, ont cette vision du 80 km/h. Et puis voilà, nous, il y avait une très grosse manifestation hier à Paris. J'ai pas eu les chiffres, j'ai pas eu le temps de regarder, mais apparemment la mobilisation était quand même importante. Blocage du périph, fin devant au pied de la Tour Eiffel, donc c'est quand même des moments sympas à vivre. Mais ce qu'on rencontre surtout, c'est que c'est encore une fois une mesure qui est prise complètement à l'inverse de tout ce qui avait être proposé depuis des années.
On peut très brièvement quand même rappeler les attendus. Pourquoi et comment ?
Alors,
je parlais de deux Suédois. Donc, une étude qui a été menée en 80, qui a été ressortie en 2000 par ces Suédois, donc sur un petit peu le rapport entre la baisse des accidentés de la route et des morts par rapport à la baisse de la vitesse limite de roulage sur les routes. Donc, s'appuyant sur cette étude-là, il est attendu donc de passer à 80 km/h à partir du 1er juillet sur toutes les routes à double sens de circulation.
Tout à fait.
Hein, c'est ça.
Ici à 90, parce qu'il y a des routes à double sens qui sont déjà limitées en dessous ou différenciées de ces 90.
Parce une 4 voies sans terre-plein central est concernée, effectivement. Voilà. Et donc, le gouvernement espère sauver ainsi 300 à 400 vies. Alors, évidemment, on ne remet pas en cause cette intention. Hein. Évidemment, il y aura toujours trop de morts sur les routes. Mais c'est effectivement les développements de cette vitesse qui semblent aujourd'hui mal considérés.
Bien sûr. Il faut savoir que l'objectif demandé par l'Europe, c'est moins de 2000 morts en France en 2020. 2020, c'est très bientôt, c'est dans 2 ans. Ça fait partie des objectifs fixés par l'Europe pour tous les pays européens et donc, on va dire, avec une réglementation. Donc, ils veulent arriver à une baisse drastique. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que derrière les morts, il y a aussi des facteurs humains et des facteurs parfois qui sont complètement inconnus d'eux. Hein. Les infrastructures, on en parle très peu, mais pour nous, les motards, les rails dits de sécurité qui ne sont pas doublés, c'est un combat depuis 38 ans de la Fédé où on réclame que les rails soient doublés, et puis là on aurait au moins évité les steaks hachés, comme on dit chez nous. Puis il y a des choses complètement délirantes. Le réseau le plus sécurisé, c'est l'autoroute. On y roule plus vite, on y roule à 130, pourtant c'est le plus sécurisé et c'est le plus cher. Et donc ça veut dire qu'on demande aux gens, s'ils veulent être en sécurité, de payer. Mais on va où ? Les autoroutes sont payées depuis très longtemps. Il faut qu'on puisse autoriser les gens à aller sur l'autoroute gratuitement, sans se mettre en danger. Il y a des choses complètement incohérentes. Nous, on demande un continuum éducatif depuis des années, avec une formation dans les collèges et lycées, et puis des formations a posteriori. C'est-à-dire qu'on se rend compte, par exemple, que dans la mortalité, les jeunes sont principalement impactés. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'au bout de 12 ou 24 mois, on refasse un stage gratuit, de perfectionnement à l'apprentissage de la conduite. Et pourquoi pas tous les 10 ans, maintenant, les règles sur la route évoluent, les véhicules évoluent. Tous les 10 ans, on refait un stage gratuit qui serait payé par exemple, les radars. Les radars, à l'heure actuelle, ça rapporte un pognon fou, mais pas forcément à l'État. Beaucoup à des sociétés privées. Je pense qu'il faut aussi un petit peu taper là-dedans et leur dire que le pognon qu'ils récupèrent, parce que là, M. Philippe, notre cher Premier ministre, a déjà dit qu'ils s'attendent à ce que, de toute façon, les limitations ne seront pas respectées, que les radars vont donc flasher plus et donc rapporter plus, et que cet argent ira aux blessés. Mais comme on dit, il ne faut pas attendre que les gens soient blessés, il faut agir avant. Et pour agir avant, c'est la formation et la prévention.
Alors, pour reprendre un tout petit peu sur les propos qui viennent d'être tenus, encore, on n'a pas les relativisés, mais c'est vrai que la statistique, encore une fois, ce qu'on dit toujours, un mort c'est un drame, 400 ou 3000 morts, ce sont des statistiques, c'est sinistre, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la sécurité routière. Par contre, c'est vrai que la population la plus touchée par la mortalité, c'est quand même la catégorie 18-24 ans.
Bien sûr.
C'est 40% de la mortalité routière. Donc c'est dramatique. Mais quand on regarde véritablement les causes, non pas de statisticiens ou de financiers, mais des assurances et surtout des sociétés ou des structures d'intervention médicale, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup à dire. Et le drame, c'est qu'on n'a pas ces éléments. Quand on voit le mécontentement sur cette loi qui est sinistre, qui n'a aucun sens, d'abord c'est mal expliqué, c'est pas compris, et on a toujours cette sensation qu'en France, on est dans le domaine de la répression. Ouais. Si on regarde un tout petit peu le plaisir de la vie, on oublie que quand même, je rappelle les accidents du travail, les 40 000 morts par mauvaise dose de médicaments, j'en passe, les accidents ménagers, 30 000 morts par an, et ça... Personne ne s'émeut. Je sais que Jean-Yves aurait été content des propos que je vais tenir là sur le coup de sa copine, Madame Perrichon. Il y a quelque temps, elle faisait donc elle fait partie du comité interministériel de la sécurité routière. Elle avait sa page Facebook où elle avait 300 followers. Et depuis qu'elle est intervenue sur quelques radios, elle est passée à 3300. Donc on a cherché à savoir quelles étaient donc cette génération spontanée de followers. On s'est rendu compte que ça venait de Tunisie. Oh, ça veut dire que globalement, on est toujours dans le phénomène de manipulation. Les Français n'ont plus confiance dans ces données que l'on nous donne. Parce que quand on a un membre de la famille, un ami ou quelqu'un qui a un accident sur route, c'est toujours une horreur. Mais on est là dans la répression, on n'est pas dans la prévention. Et donc, effectivement, il serait bien quand même qu'on réinvestisse là. Il faut le faire sur de l'humain et non pas sur de la rente.
Voilà. Sur des conséquences humaines, hein, les accidents sont dus à ça la plupart du temps. C'est avant tout des conséquences humaines. Hein. Il y a toujours quelqu'un derrière un volant et un guidon. Et malheureusement, il y en a souvent qui font des bêtises, qui sont distraits, qui se distressent même sur les routes. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on voudrait aussi, alors je vais laisser Christophe parler aussi un petit peu des futures mesures, parce qu'il n'y a pas eu que le 80, il y en a d'autres qui font encore plus flipper que ça. Hein. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que suite aux nombreuses interrogations, ça date d'hier, hein, c'est tout tout neuf, on appelle à deux gros week-ends de mobilisation, donc le 14 et le 15 avril et le 5 et 6 mai de cette année. Donc restez vigilants, restez attentifs sur les pages Facebook, les sites internet. Il y aura des informations, il y aura des manifestations prévues sur ces deux week-ends.
Ok, alors on va mettre un peu de musique quand même pour détendre, parce que la mortalité c'est quand même pas ce qui nous fait rire tous les jours, et on va mettre un grand coup de musique, Laurent.
Je crois.
Do it. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Bonjour, voilà, on est ici à Laval, dans la zone industrielle de... Comment ça s'appelle, hein?
La zone industrielle des Touches.
Moi, je vois qu'il y a une bonne, un bon millier de motards ici aujourd'hui pour cette fameuse loi des 80 km/h hein, qui normalement devrait passer au mois de juillet.
C'est ça, exactement. Alors, on dénonce plus globalement hein, la politique de sécurité routière coercitive qu'il y a depuis 15 ans. On essaie de faire passer le message qu'il y a une autre façon de faire. On peut faire de l'éducation, on peut donner accès aux gens, aux réseaux sécurisés, au réseau le plus sûr routier qui est les autoroutes, en les rendant gratuites. On peut faire énormément de choses en arrêtant de taper sur les gens systématiquement.
Alors c'est pareil, que ce soit ici en Mayenne ou dans l'Or, on remarque que le réseau routier secondaire est très mal entretenu.
Alors ben oui, c'est-à-dire qu'à force de dégréver le budget pour l'entretien des routes, on finit par faire des réfections au bout de 15 ans au lieu de 7 avant, et forcément ben, ça a une incidence sur l'accidentalité.
Alors sur l'île, quand on fait appel à la manifestation, c'est vrai que ça réagit pas mal. Est-ce que ici les motards de la Mayenne sont identiques à ceux du Nord? Est-ce que ça bouge pas mal?
Eh ben d'habitude ça bouge relativement bien, ouais. On a généralement 350-400 motards sur les manifs sur Laval. On peut monter à 450. Là, avec la pluie et tout, je pensais pas qu'on puisse être autant en fait. On a aussi des 4 roues, hein, on a beaucoup de voitures.
Je suis vraiment stupéfait de voir autant de voitures. À Lille, ce n'est pas le cas. On a que des motards et pas beaucoup de voitures. Et par contre, là, ici, il y a énormément de voitures.
Ah ben, je suis aussi épaté que toi. Je pense qu'on a plus d'une centaine de voitures qui ont été réunies, là. On a le 40 millions d'automobilistes au niveau local qui ont envoyé des mails à ses adhérents. Et manifestement, ça a mordu, quoi.
C'est parce que les automobilistes se rendent compte que d'ici 6 mois, cette loi des 80 km/h sera appliquée et qu'il est temps de se réveiller peut-être.
Peut-être aussi, peut-être que ça joue, mais bon, enfin, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a une aussi grosse mobilisation de 4 roues sur une manif comme celle-ci. Hein. On va pas se leurrer, ça. Le 80 km/h a un effet galvanisant. Hein. Après, nous, on dénonce quelque chose de plus large. On s'arrête pas que à 80. C'est le problème du coercitif, nous on n'aime pas trop ça. Voilà.
Très bien, bah écoute, je vais te laisser parce que je vois qu'il y a beaucoup de motards qui arrivent et qui sont présents. Hein. Et je sais pas, le départ de la manif est prévu à quelle heure?
Eh ben normalement on doit partir à 14h, donc on va faire le brief sécurité là, et ensuite bah, on bat le rappel, tout le monde en sait et on y va, sous la flotte.
Très bien, et je te remercie. Et puis bonne manif.
Merci beaucoup.
Eh bien, la miche était sous la flotte en Mayenne, comme quoi il se prépare bien pour la transpéruvienne et puis n'attrape pas froid. On va reprendre quand même le cours du débat avec notre camarade Benoît de la FFMC 59, justement ouais. Sur les propos qu'il tenait par rapport à tous ces événements vécus et à venir surtout.
Voilà. Ouais, bien sûr, parce qu'on se rend très bien compte qu'au final, il y a une interdiction pure et simple de circuler. On disait tout à l'heure le facteur humain. Ce qu'ils veulent, et comme disait Yannis, c'est qu'on se retrouve tous dans des véhicules autonomes qui roulent tout seuls, en convoi, et puis là, il n'y a pas de danger. Il y a des théories. Si on veut parler mathématiques, il suffit de se rendre immobile et on risque pas de rencontrer quelqu'un. C'est à force, on va arriver à ça. Ne plus circuler, ne plus rouler, il y aura plus d'accidents. Quand on voit notre cher délégué interministériel que tu as interviewé ce matin et qui compare la route à un circuit de Formule 1, enfin même lui, il est complètement à côté de la plaque, quoi. Et puis, en regardant un petit peu plus loin, on se dit, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est qu'on arrête de rouler. Et au pire, pendant ça, là, au mieux, nous contrôler, nous interdire et nous surveiller. Christophe, on lit dans le motomag hein, qu'on va vers un mouchard de vitesse, par exemple.
Oui. Justement, Christophe, ce serait intéressant d'expliquer cette nouvelle technologie qui est censée être au coin du progrès pour améliorer, pour le mieux vivre au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il en est ?
Je vais mettre en situation. Alors, il faut effectivement dire qu'au début de l'année s'est déroulé le comité interministériel de la sécurité routière. Et dans une de ces mesures, la mesure numéro 8, voilà ce qui s'appliquera dans 3 ans, donc en 2020, si j'ai un excès de vitesse de plus de 40 km/h. On va équiper donc mon véhicule ou ma moto d'un mouchard de vitesse. Ce mouchard de vitesse enregistrera en permanence la vitesse de mon véhicule pour m'assurer que je respecte bien la limitation maximale autorisée à l'endroit où je me trouve. Donc localisation et contrôle en temps réel de la vitesse à laquelle je suis autorisé à rouler par rapport à celle que je pratique. Si je suis distrait et que j'ai pas allumé mon mouchard, même chose. je suis répréhensible. Qu'est-ce qui se passera automatiquement le lendemain? Je recevrai un avis soit de retrait de permis, soit de suspension du permis. Donc cette mesure qui peut s'appliquer donc concerne, je l'ai bien dit, les gens qui auront commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Et de cette façon-là, c'est une sorte de préventive en attendant éventuellement la suspension ou le retrait de permis. Mais qu'est-ce qu'on voit arriver derrière? C'est que s'il y a généralisation d'un tel dispositif, eh bien, le contrôle se fait... Tu parlais d'automatisation, de véhicules autonomes.
C'est du Big Brother.
Tout à fait, ouais. Exactement. Et donc, les radars, on voit bien où on peut arriver. Les radars actuellement sur le bord des routes qui coûtent cher, qui sont installés, qui sont vandalisés, qui nécessitent donc une maintenance. On supprime ces radars là, et puis bah, pendant qu'on y est, allons-y jusqu'au bout, on équipe tous les véhicules de ce type de
mesures. Et au frais des contribuables, bien sûr.
Je pense que ça, c'est ce qu'ils veulent,
on va en arriver là. Bien entendu.
Mais si on se mobilise pas, et si on sort pas, si on gueule pas, parce que maintenant, il faut vraiment gueuler, s'ils nous entendent pas, s'ils veulent pas nous entendre, c'est ce qui nous arrivera. Voilà. Il faut qu'on soit hyper vigilant.
Mais Yanis, dans ce que tu dis, effectivement, mais hurler, ça sert pas toujours à grand-chose. Par contre, agir, c'est beaucoup plus productif. Alors, pourquoi? On est dans un monde éminemment individualiste. C'est moi un slogan que j'utilise depuis la nuit des temps, c'est bats-toi, battez-vous pour mes droits. Parce que de temps en temps, c'est vrai que cet an dernier, on a vu pas mal de motards se mobiliser. C'est bien, c'est une chose. Les 40 millions de veaux aussi qui bougent un tout petit peu, c'est bien aussi, mais c'est pas suffisant. La sécurité routière devrait revenir, non pas dans un comité un peu obscur, mais ça devrait être repris à bras-le-corps par nos hommes politiques, et ils doivent avoir le courage de gérer, parce que ça fait partie de leur fonction d'élus, de défendre les intérêts des citoyens. Et tant que cette sécurité routière ou rentière, pour reprendre l'expression de notre ami Jean-Yves, que je salue au passage, ne retourne pas dans le droit et le devoir de nos hommes politiques, on arrivera à ce genre d'abus.
Bien entendu. Alors moi, je dirais, nous, on a été un petit peu alpagués, et très logiquement, d'ailleurs, on conçoit par des gens qui nous disent « Ouais, là, qu'est-ce qui se passe dans le département? On fait rien contre le 80 km/h. » Il faut juste rappeler qu'on sort d'un très gros week-end, nous, de mobilisation avec nos militants bénévoles sur l'Enduropale du Touquet, avec un relais Calmos où on a, alors pour nous, un tout nouveau qui a fait près de 300 motards, donc c'était quand même pas mal. Des chiffres records dans le Pas-de-Calais, avec plus de 1500 motards en passage sur leur relais Calmos, plus de 500 000 personnes sur l'Enduropale, donc c'est aussi des chiffres impressionnants. Il faut savoir que on est que des bénévoles et que des militants, on a que deux bras, une tête, et qu'on a aussi une vie de famille et une vie professionnelle à côté, et qu'on peut pas forcément mobiliser tout le temps et tous les week-ends tout le monde. Ça, c'est un premier chiffre. Donc je dirais que voilà, restez vigilants, concentrés et mobilisés pour le week-end du 14-15 avril et 5 et 6 mai. Vous le marquez déjà dans le calendrier. Il y aura des choses de fait, ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train de se reposer, on est juste en train de se préparer pour que ce soit un beau mouvement et quelque chose qui réagisse. Il faut juste savoir que là, on a un petit peu loupé le coche, puisque théoriquement, pour éviter que la loi passe, il aurait fallu agir sur les députés. On a fait des courriers aux députés, quelques-uns nous ont répondu, mais trop peu. Maintenant, il faut taper sur les sénateurs. Donc n'hésitez pas, vous mettez « Trouvez mon sénateur dans le département » et vous lui écrivez. Et les sénateurs sont en train de réagir par rapport à ça.
Ok, Benoît. Alors écoute, on a bien entendu, c'est sûr qu'on revient sur ce qu'on s'est dit. Maintenant, le pouvoir doit revenir dans les mains, enfin tout au moins les décisions de nos hommes politiques, sénateurs et députés, effectivement, on fera action sur tous ces gens-là. Voilà. Jean-Christophe, c'est fini, t'as plus rien à dire. Tu voulais plus mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut.
Rien à ajouter. Donc, c'est un dossier effectivement complet que vous retrouverez dans le Moto Magazine. L'infographie d'ailleurs qui explique ce que je vous ai décrit au téléphone.
À la radio.
Juste avant. Ouais. Et puis, dernière information, Vincennes et Charenton, puisqu'on parlait du stationnement payant tout à l'heure hors antenne, eh bien, ça y est, les motos sont tarifées aujourd'hui à Vincennes et à Charenton pour le stationnement entre 80 centimes et 1,33€ de l'heure.
Et apparition du gang des Meuleuses, méfiez-vous, le gang des Meuleuses arrive.
Et alors on continue en musique sur Radio Campus.
C'est Laurent. We'll be right back.
Nous sommes de retour sur notre magazine.
Ça, c'est ma dernière
moto
préparation.
Préférée. Ah oui, 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 ça, c'est la moto.
C'est hier dans le garage.
Voilà. Mais il ne faut pas le dire parce que tu risques d'avoir un souci, c'est trop puissant.
340.
Alors, Christophe.
Sur National.
Maintenant que Laurent donc, a fait son coming out motard, hein, est-ce que tu ne nous parlerais pas un petit peu des hommes et femmes qui font les événements motards?
Oui, parce que c'est vrai que ça m'a mis un peu à plat, là, ce sujet-là. C'est vrai. Bon, alors, on va revenir effectivement à des passions, et puis surtout, qu'est-ce qu'il nous faut pour bien vivre sa passion, surtout par les frimas qui courent. Hein, je vous annonce que cette semaine-là, c'est la première semaine où on va certainement passer en dessous de zéro. Donc, effectivement, les hommes qui font la moto, un portrait comme chaque mois, le portrait de Serge Nuques,
ancien voilà. Pilote de Grand Prix et de vitesse.
Tout à fait. Alors connu des amateurs de Groland, puisque en fait il était effectivement the chevalier de Groland, mais il s'est surtout distingué donc lors du Moto Tour où il a terminé en fait le Moto Tour déguisé en gorille sur sa monture. Et d'ailleurs, ce qui lui a fait rencontrer Benoît Delépine et de pouvoir donc tourné dans le film Mammouth à l'époque. Alors là, on nous parle de film, effectivement, un autre film qui vient de sortir le 7 janvier, je crois, dernier, Burnout, donc un film de moto,
oui, tout à
fait. Une question de moto, et où il a assuré donc les cascades au guidon pardon, de la Ducati Panigale. Donc il nous raconte les tenants et les aboutissants, aussi les assouplissements qui sont faits, on en a discuté juste avant là, concernant la bande son, les sons des motos qui correspondent pas aux motos qui sont présentées. Et alors je crois que vous en l'avez vu, hein, donc vous confirmiez effectivement ce propos. Donc vous verrez d'ailleurs la Ducati affublée de tout son matériel embarqué pour le dit tournage. J'avoue que piloter dans ces conditions, ça devait être assez sport.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Maintenant, revenons à nos équipements. Et là, Yanis, tu vas certainement être d'une bonne collaboration sur le sujet. Donc, tout un dossier sur la façon de s'équiper spécial hiver. Alors, je pense que tu as des petits trucs, tu nous en diras. Alors, j'ai trouvé, et j'avoue qu'on connaissait les semelles chauffantes, mais là, c'est les semelles chauffantes pilotées par le smartphone. Hein, donc,
mais si on ne peut plus téléphoner uniquement à l'arrêt et sur un parking, on se gèle les pieds.
Alors, il faut mettre en route avant de partir.
Ah bah voilà.
Voilà. Donc si tu t'es trompé, si c'est trop chaud, bon, ça risque pas d'être trop chaud, mais
on sait jamais.
Si c'est trop froid, voilà. Donc des essais de gants, une nouveauté, donc une paire de gants donc sans fil ni pile. Je vous laisse découvrir.
Connexion sur le guidon.
Connexion sur le guidon.
Il suffit de poser la paume de la main sur son guidon et il y a les contacteurs plus et moins qui activent la résistance.
Voilà, donc c'est effectivement une évolution favorable pour ces gants chauffants. Le fameux tour de cou plastron, là un modèle de Total pour vous protéger donc la poitrine effectivement roulée dans de bonnes conditions. Également, on passe en revue les manchons. Alors les hommes et les femmes, hein, donc tenues vestimentaires adaptées, effectivement, au niveau des blousons qui vous sont présentés. Et puis, toujours des choses un petit peu décalées concernant, justement, les alertes rouges. Alors, un journaliste de Motomag a été victime 3 fois de collisions par l'arrière de véhicules qui se sont pas arrêtés sur un arrêt de sa moto. Et donc, on nous présente des systèmes qui sont rapportés sur le casque et qui permettent donc d'améliorer la visibilité à la décélération, donc au freinage, et des produits donc, qui sont connectables sur la moto et qui vous apportent de la sécurité.
C'est pas idiot, hein, honnêtement, le stop sur le casque avec décélération, etc. Parce que c'est vrai que souvent nos amis automobilistes regardent leur GPS pour savoir où ils vont, puisque ça fait 45 ans qu'ils font le même chemin, mais ils ont besoin d'un GPS. Et entre le téléphone et la radio,
le
GPS s'active dès que t'es dans ta bagnole.
Voilà. Donc c'est pas idiot. Surtout que j'ai vu que la technique est pas mal faite. Donc au niveau sécurité, c'est-à-dire qu'en cas de choc, glissade, ça s'éjecte automatiquement. Donc il n'y a pas de problème de ripage sur la voix. Donc le casque continue à faire l'office qui lui est dédié, c'est-à-dire la protection du crâne cervical.
Oui, et il y en a même un qui est donc témoin d'alerte également, qui envoie, qui appelle les secours, et donc un numéro dédié en cas de chute violente, effectivement. La pratique de la moto en hiver, Yanis.
Raconte-nous tout, toi.
Je raconte tout.
Puisque t'es le seul, ce matin venu en moto.
Ouais, mais je suis un tricheur.
Ah bon ?
Je suis un tricheur parce que quand il neige, je me sers de mon sidecar.
Voilà.
Il y a trois roues. Je peux même monter des pneus neige dessus. Donc là, je fais un peu petit joueur. Hein, c'est vrai. Mais ça m'est déjà arrivé de rouler en solo sur la neige. Enfin, dans les parties noires, dans les parties qui restent noires sur la chaussée entre deux bandes de neige.
Ouais. Un tête à queue en sidecar, ça le fait ?
J'ai jamais fait. J'ai jamais eu. J'ai eu en bagnole, mais jamais en sidecar.
Bon.
Donc, avec une bonne paire de pneus neige. C'est vachement rigolo. Mais tu sais que la glisse en sidecar, c'est vraiment fun, hein, on se marre. Vraiment rigolo, hein, c'est un vrai plaisir.
Mais alors, est-ce que tu as été en Islande aussi avec nos amis Jean-Yves ?
Alors, effectivement, Daniel, c'est un Daniel et Sylvie qui sont partis donc de Toulouse pour se rendre en Islande. Alors, Toulouse, le Danemark, hein, 3 jours de moto, et puis un ferry. Alors, il y a une certaine analogie avec notre ami Aurélien qui intervenait la semaine dernière là, en disant il faut pas que je meure avant d'avoir fait le Touquet. Là, c'est un petit peu la même chose, en fait. L'Islande, c'est... Bon, il y en a qui vont au Cap Nord et qui disent « je veux y aller ». Bon, là, c'était l'Islande. Donc, ils sont partis au mois de juin. Ils nous racontent cette balade quand même assez fun, parce que d'abord, un side en Islande, il faut déjà le faire.
Il faut l'amener là-bas, l'emmener. Donc il faut prendre le ferry, et le ferry pour l'Islande, même au départ du Danemark, c'est pas donné. Hein. Il parlait de 2 300 € aller-retour pour deux personnes et le sidecar. C'est, à titre de comparaison, moi je prends tous les ans le ferry en Italie pour aller en Grèce, et ça me coûte, cette année, ça me coûte 500 € aller-retour. 4 plus le sidecar. Hein.
Alors, bon. c'est effectivement des paysages désolés. Le West Side Story, comme c'est indiqué donc dans le titre de cette épopée, en quelque sorte. Et puis des pistes, des poussières volcaniques très abrasives. D'ailleurs, ils ont eu quelques problèmes, ils se sont fait dépanner. Alors, c'est amusant, par un mécano qui était tellement réjoui de sa Coupe du Monde en France, n'a pas fait payer nos amis, donc en reconnaissance à l'accueil chaleureux qu'il avait reçu. Et donc vous découvrirez ces 3-4 pages et cette narration tout à fait sympathique donc, de Daniel sur leur périple en Islande.
Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, hein, parce que je suis spécialiste de tourisme de par mon métier. L'Islande, c'est une destination aujourd'hui qui est très à la mode, qui est de plus en plus fréquentée par des motards. Mais en général, quand on part en moto en Islande, on y va avec un gros trail et pas avec un sidecar routier. Donc chapeau bas à mes collègues sidecaristes. En plus, ils ont fait beaucoup de pistes et c'est vraiment
un
sidecar.
Avec un XJR, c'est pas non plus une machine très sidecarisable.
Oui, c'est c'est un sidecar avec assez peu de garde au sol. Ils ont fait beaucoup de pistes, des pistes cassantes, donc félicitations. Et puis, deuxième remarque, il le dit, l'auteur de l'article le dit dans son texte, hein, c'est que le sidecar, ça ouvre beaucoup de portes quand on est en voyage. Ça attire beaucoup la sympathie de tout le monde. Et je confirme complètement, parce que moi, à chaque fois que je voyage avec mon sidecar, toutes les portes sont ouvertes.
Fenêtres. Eh bien, écoute, c'est intéressant d'avoir ce commentaire d'un sidecariste convaincu et avéré. Maintenant, notre ami Laurent va nous envoyer encore une fois un coup de musique qui va réveiller tous les motards encore endormis.
Eh bien, tout à fait.
De nouveau de retour sur le plateau de Mission Kikinkou avec tous nos invités, Christophe, Yanis, Philippe, Benoît, Laurent et moi-même, bien entendu.
Alors, la voix de la custom culture, nous en parlions avec Philippe Payard. Daniel, oui. T'as fait une rencontre insolite dont tu vas nous parler maintenant.
Tout à fait, bah, merci Christophe. Oui. Rencontre insolite, bah oui. Alors, j'ai rencontré un vieux biker de 83 ans, star du cinéma, Pierre Richard, grand blanc qu'une chaussure noire, j'en passe, et des meilleurs. Oui, il était dans le Nord, et vous savez aussi que j'ai quelques activités dans le domaine viticole, n'est-ce pas? Et lui aussi, donc, est un grand vigneron convaincu. Donc, j'ai été informé de sa visite près de chez moi, et il me dit, bah tiens, on pourrait se voir pour un petit déjeuner. Bon, je dis, oui, écoute, ok. Il me dit, voilà, je suis vigneron, j'ai des vignes, et puis là, je fais un mini-salon avec un caviste. Bah, je dis, ouais, ok. Je lui dis, mais... Ce qui m'intéresserait, c'est dans le cas de l'émission Kikinkou, où j'interviens avec tous mes copains, je sais que tu es, depuis la nuit des temps, biker, puisque tu as eu un nombre d'Harley, etc. Et je sais que tu roules toujours. Ben, il me dit, oui, avec GG, on fait de la moto de temps en temps, mais lui un peu moins, parce qu'il est un peu plus fatigué que moi. Je lui dis, oui, c'est vrai, mais il se soigne. Et je lui dis, mais tu en es où? Ben, il me dit, écoute, j'ai eu de très très nombreux Harley, j'en ai encore deux, mais maintenant, l'âge aidant, je roule un peu moins et j'ai une Shadow 1100, si je ne m'abuse. Et je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, tu sais, je suis sur Paris, j'ai pas mal d'interventions, je fais beaucoup de théâtre, tout va bien. Mais j'ai gardé quand même ce côté très, très attachant à la moto, parce que c'était à l'époque de Johnny, quand il commençait, on jouait les bad boys avec nos Harley, nos 1200 fontes et compagnie qui perdaient les pièces tous les 100 mètres, etc. Et il dit, j'ai gardé quand même cette filiation, cet amour de la moto et des gens qui pratiquent, parce que il y a toujours eu cette connivence un petit peu de l'homme et de la machine, comme je l'ai découverte avec le vin. Alors je lui dis, mais t'es quoi? T'es acteur, biker, vigneron? Il me dit, non, maintenant je suis redevenu un homme de la terre. Ah, je lui dis, ouais, effectivement, c'est très très beau. D'ailleurs, vous verrez, il y a quelques photos, j'espère que Laurent pourra les récupérer. Intéressante, parce que sa vision des choses, donc de cet homme qui est honnêtement empreint d'une gentillesse inouïe, je peux vous assurer, pour avoir fréquenté pas mal de monde du ciné, c'est quelqu'un d'une spontanéité, d'une naturalité assez étonnante. C'est vraiment un beau personnage, je veux dire, c'est une belle personne. Et qui m'a dit, mais tu sais... la vie de la moto, moi, ça a été comme au cinéma. J'ai vécu avec l'échappée sauvage, Marlon Brando. J'ai vécu tout ça. J'ai vécu cette évolution de la moto au fil de ma carrière, quelque part. J'ai eu la chance d'avoir les moyens d'avoir les plus belles machines en son temps. Et il dit, maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la tournure que prennent les événements en tant que pratiquant. Il dit, bien entendu, je ne suis plus un yearling, à 83 ans, bah, j'ai plus les réflexes de mes 20 ans. Mais il dit, je suis toujours passionné par ça. Et il me dit, mais il faut que vous les jeunes, enfin moi, tu parles, vous les jeunes, ah oui, quand tu as un type
il avait,
de...
Il y avait bu déjà quand tu t'as dit...
Non, pas du tout. Non, c'était au café. C'était au café. Il dit, vous les jeunes, continuez à vous battre pour vos libertés, parce qu'il n'y a que comme ça que vous garderez le sourire. Et on a besoin de ce sourire dans la vie. Et j'ai trouvé ça très beau parce que j'ai vu un type d'humilité sans nom, alors que je peux vous assurer que vous avez des jeunes trous du cul qui ont fait une espèce de vague prestation au cinéma, qui vous regardent de haut et qui vous envoient paître. Là, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de son temps et qui vous explique ce qu'il fait. Il s'est engagé aussi dans des tas d'associations pour l'éducation des enfants pauvres. Enfin, il y a plein de choses. Je vous dis, c'était un beau moment et je trouve que le fait qu'on ait cette rencontre pour la radio, j'ai trouvé ça très très riche.
Oui. Il n'a jamais eu l'occasion de tourner sur une moto, parce que je découvre sa pratique de la moto.
Il a fait des scénettes avec des motos, avec Gérard Depardieu, je ne sais plus dans quel film, mais il en a fait, je crois que c'était avec Mireille Darc, sous toute réserve, avec Mireille Darc, je crois. Il en a fait, et avec Gégé et son grand pote, enfin Gérard... Depardieu, ils sont grands potes et ils sont vignerons tous les deux. Je peux vous assurer que c'est très très rock'n'roll les réunions. Et là, on était appelé à découvrir ses vignes en moto. Et donc ça, on va faire ça cet été pour aller lui rendre visite, parce que ben, quand t'es invité par un personnage comme ça, je pense que ça vaut le coup d'y aller. Et c'est vraiment un grand moment de bonheur et de partage. Je peux vous assurer que ben, là, j'étais content de représenter la radio et de, ben, d'expliquer ce qu'on faisait. Et il était très, très intéressé. Imaginez, toute proportion gardée, que Macron vienne nous voir dans le coin et qu'il me dise « salut », etc. Et qu'il nous laisse du temps pour qu'on puisse exprimer ce que l'on est, ce qu'on a envie de faire. Je veux dire que ça redonne beaucoup de sens à la vie. Et quand on a des gens comme ça, avec autant de talent, avec ce recul, cette humilité sur la vie, je trouve que c'est un grand moment de bonheur. Et en plus, accompagné avec des bons vins, parce que je vous assure que les vins sont vraiment très bons.
Avec modération, on est obligé de le dire.
Ah mais, même sans, mais modération est toujours bien accompagnée. Donc, bah écoute, Laurent, après ces quelques degrés, ces quelques jus de raisin, tu ne mettrais pas un petit coup de musique ?
On va secouer la pulpe.
Ok.
Rubrique Custom Village, nous sommes toujours sur Radio Campus, le magazine de la moto. Daniel, à toi, la conclusion.
Oh, la conclusion, non, parce que chez nous, c'est à la radio ici, à Kikinkou, c'est jamais à la fin, c'est toujours un début d'autre chose, c'est un peu yin-yang. Alors, le Custom Village, ben, vous savez que c'est... On a dépassé les 150 membres en moins d'un an, donc ça bouge. Il y a encore une fois les 52 sorties qui sont prévues, ça y a aucun problème. Il y a des sorties majeures. Là, je vous ai parlé, on ira sans doute dans le sud avec les amis de la radio et quelques autres amis sur invitation pour faire une petite balade découverte. On a prévu la balade de Gorge du Verdon, le Luberon, la route des Crêtes. Qu'est-ce qu'on a le Massif Central. Donc, il y a de jolies choses. On prépare la Transpéruvienne quand même. On est en train de former l'équipe pour pouvoir aller voir et mesurer un petit peu la faisabilité
avec
du projet.
La miche vient avec vous.
Oui, oui, la miche, bien entendu. Mais surtout qu'il s'entraîne. Et donc, là, on a...
Avec une Royal Enfield carénée.
Voilà, c'est ça. Et au mois de mars, je crois que c'est le 5 mars, il y a un grand couscous avec une grosse fête Rockabilly au Custom Village, où vous êtes tous invités, bien évidemment. Donc, la grande fête, comme tous les mois. Et puis, je voulais parler aussi, pour conclure, d'un homme politique, même si c'est pas dans l'air du temps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est fait à César. Et il y a un garçon que je veux parler, parce que d'abord, je l'aime bien. C'est un mec que je connais depuis 25 ans, qui s'appelle Thierry Lazzaro, qui est notre ancien député. C'est le seul homme politique qui a mis mon cuir une fois, pour se faire photographier pour toute la presse, pour expliquer que le monde de la moto devait revenir, enfin tout au moins la sécurité routière devait revenir, la priorité des hommes politiques et non pas des espèces de commissions ad hoc que personne ne connaît. Et on l'a dénommé biker de cœur parce que il a été rejoint par ça avec Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, et puis d'autres sénateurs, entre autres Marc-Philippe Daubresse, parce qu'ils ont envie de nous aider, envie d'écouter et envie de peser sur toutes ces décisions iniques qui n'ont aucun sens. Donc je voulais, on l'a désigné nous comme biker de cœur. Voilà un petit peu la voix.
Alors tu parles du monde politique et je profite de ce que Benoît est là. Le deuxième papier que j'ai fait pour Motomag il y a pas mal d'années, c'était justement Motard d'un jour. Ouais. Et donc Benoît, tu peux peut-être en reparler
voilà,
parce que c'est
ce
justement...
Ce sera reconduit cette année. Hein. On n'a pas encore les dates, mais probablement en septembre. Alors il y a deux périodes, soit juin, soit septembre. Et en fait, ça consiste à emmener les élus, les députés, les techniciens de voirie, souvent les gens qui prennent un peu les décisions à la place des autres, de les mettre sur une moto, de les emmener sur des parcours qu'on choisit avec eux, pour leur montrer la réalité de la vie de motard. Est-ce que c'est l'évitement d'un nid de poule, par exemple, il y en a de plus en plus, un freinage moto qui est différent d'un freinage voiture, et si on met un passage piéton juste avant une ligne de stop, et forcément on freine pas pareil. La visibilité qui est aussi très différente. Alors on dit souvent je vous ai pas vu, mais nous on a aussi à moto une visibilité différente de ce qui se passe, et donc ça engendre plein de choses. Alors c'est pas pour incriminer les gens, au contraire c'est pour leur montrer que la façon de faire de la moto est complètement différente quand on la fait d'un bureau derrière un ordinateur ou quand on est réellement en moto par Mons et par vous.
Mais tu as raison Benoît. C'est la raison pour laquelle je te dis depuis pas mal d'années où moi personnellement le terrain, bon, j'en fais quand même, hein, encore une fois je crois avec peut-être Christophe, avec la Miche, on est quelques-uns à être millionnaires en kilomètres parcourus. Ouais. Donc on a aussi cette expertise de vieux cons, râleurs, mal embouchés des fois. Mais justement, cette expertise ou cette expérience que l'on a les uns les autres, quand on est capable de le partager avec des hommes politiques qui ont envie de t'écouter et d'essayer de comprendre ta différence, les choses évoluent rapidement. Mais le problème, c'est que c'est pas tellement les hommes politiques, parce qu'ils sont tous bien gentils quand tu les vois, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont envie de bosser. Ils sont dans leur petit confort, et quand tu as avec toi des hommes de poids, sans jeu de mots, qui ont envie de se mouiller, qui ont envie d'agir en tant qu'hommes politiques et de faire ce pourquoi ils ont été élus, mais je crois qu'il faut respecter ces gens-là, parce honnêtement, leur vie, c'est pas non plus tout rose et violette pour certains, des gens de terrain. Donc, pendant qu'on y est aussi, je vous informe que nous allons organiser les premières assises de la moto avec 500 invités sur le Nord. Ce sera donc sans doute mai ou juin. Donc vous serez invités. Il y aura toutes les fédérations, les intervenants, etc. etc., etc. Je vais en profiter, puisque le temps tourne, pour Christophe, si tu pouvais nous parler un petit peu des agendas, des rendez-vous.
Alors, effectivement, si vous cherchez des sorties, des motifs, des lieux de balade, etc., vous avez évidemment, bien sûr, le calendrier Kikinku qui est sorti le mois dernier. Vous pouvez aller sur motomag.com, rubrique agenda, vous trouverez évidemment toute l'actualité, les manifestations, notamment à FFMC.
Et enregistrez vos propres manifestations.
C'est
aussi
ouvert, évidemment, si vous êtes organisateur, vous pouvez bien sûr déposer gratuitement votre annonce. Et puis une nouvelle adresse donc, qui est dédiée au sport mécanique, auto, karting, 4x4 et camion, et bien sûr aussi moto, qui s'appelle donc agendaautomoto.fr. Tout ça en attaché sans point. Voilà.
Et ne pas oublier aussi le calendrier de K1C qui est sorti il y a quoi, 3 semaines maintenant ?
Oui.
Et qui a déjà été, j'ai regardé, je ne sais plus, hier, il a déjà été téléchargé 6500 fois.
Tout à fait. En PDF. J'ai regardé là aussi la même chose, c'est assez impressionnant. N'oubliez pas que c'est un outil, hein, donc le calendrier Kikinkou, c'est véritablement un outil de connaissance. Toutes les semaines, vous pouvez vous balader, rencontrer des gens improbables aussi. C'est véritablement la Bible de la région. Et bah, encore une fois, un grand, grand merci d'avoir cet outil qui est gratuitement mis à disposition de tous les motards.
Et en plus, c'est un bel objet puisqu'on s'adjoint le concours de dessinateurs qui nous font toujours excessivement plaisir.
Non, on a plus le temps de mettre un morceau. Alors, si vous voulez tous conclure, voilà.
Ah bah écoute Laurent, moi je suis déçu parce que je pensais que tu allais mettre encore une fois un peu de musique pour adoucir les mœurs. Eh bien, honnêtement, bah, j'étais content de remplacer les irremplaçables amis chez Luc.
Mais je crois que c'est concluant. Hein, on va rester sur cette. voilà. Donc, de toute façon, j'ai changé les clés.
Voilà, on les vire. Ça allez,
au revoir.
Mais dans tous les cas, merci à tous. Merci à Philippe. Merci à Benoît. Merci à Christophe, à Yannis et surtout à notre ami Laurent. Toujours avec une programmation d'enfer.
Mais vous pouvez continuer à parler, hein, parce que il y a peut-être des choses à dire. Hein, je sais pas, mais quand même. Là, d'habitude, on n'a jamais le temps, mais alors là, il nous reste encore une minute avant le générique. Hein,
mais Laurent, nous sommes des gens disciplinés.
Moi, je rappellerai juste les deux dates du 14 et 15 avril et 5 et 6 mai. Voilà. Mettez ça d'ores et déjà dans vos agendas et restez mobilisés.
Ok. Philippe.
Moi, Ali Émergie de France, on vous attend tous en concession et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Émergie HDF et sur le site de la concession.
Ok, bah on le fera. Yanis, toi, Critiqueman, grec.
Critiqueman, je sais pas, non. On n'a pas parlé de l'électronique tout à l'heure. Ouais, je trouvais que parfois on fait la part trop belle à l'électronique sur les machines. On se plaint trop souvent dans les essayeurs, en tout cas, de l'absence de béquilles électroniques. Et je pense qu'à force, de trop d'électronique, ça me dérange un petit peu, quoi. Voilà.
Un avis qui est partagé d'ailleurs avec Sylvain Tesson, grand motard, qui nous fait partager toujours ses expéditions et ses voyages.
Je suis très fier de partager l'avis de Sylvain Tesson, un écrivain dont j'apprécie hautement les écrits.
Voilà. Et son documentaire qui passe encore sur la chaîne Voyage.
Oui, je l'ai vu. Ouais, je suis un grand fan des récits.
Eh bien,
là, ça a l'air d'être la fin. Là.
Bah oui, c'est la fin du voyage. On va couper le son et pas l'image. Mais dans tous les cas, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle aventure.
Et puis la semaine prochaine avec Jean-Michel. Merde.
Zut, il est de retour.
Le retour du Jedi.
On est désolé. Allez, au revoir.
Salut Laurent.
Au revoir.